Oui, chers auditeurs, chères auditrices, pour le profane, la guerre dite de Crémonides peut apparaître comme une simple péripétie parmi bien d'autres dans la tumultueuse histoire d'Athènes à l'époque hellénistique. Mais il est certain qu'elle fut plus que cela. Par son ampleur d'abord, puisqu'elle s'étendit à une partie importante du monde grec, Athènes, bien sûr, partie du Péloponnèse, région isthmique, la Mégaride, l'Eubée, aux Cyclades, très probablement. Par sa durée ensuite, car il ne fait aucun doute qu'elle se prolongea pendant une demi-douzaine d'années. Par ses conséquences, enfin, dans la mesure où le statut politique d'Athènes en fut affecté assez gravement pendant une génération au moins. Plus profondément encore, cette guerre marque un tournant, on peut le dire, puisqu'en dépit du redressement que la cité connaîtra à partir de la fin du IIIe siècle, elle ne pourra plus jamais prendre la tête d'une opération militaire de cette envergure. Et sur le plan culturel, également, la décennie 270-260 a coïncidé avec la disparition de plusieurs figures éminentes de la vie intellectuelle, qui n'ont pas été remplacées, du moins pas immédiatement, par des personnalités d'égale notoriété. Il s'agira donc de cerner au mieux les contours de cette rupture multiforme de la fin des années 260, consécutive à la capitulation d'Athènes devant le roi Antigone Gonatas, parvenu, quant à lui, au zénith de son long règne. Toutefois, avant de m'atteler à cette tâche, j'aimerais revenir non pas tant sur la guerre de Crémonides elle-même que sur la documentation épigraphique qui s'y rapporte, afin de bien faire ressortir, de mesurer exactement, l'accroissement de nos connaissances, d'un côté, et l'étendue de nos ignorances, de l'autre. Il est certain, en effet, que l'on entrevoit aujourd'hui de façon beaucoup plus précise le début des hostilités. Disons les trois premières années, jusqu'à la mort en 265-4, du roi Areus de Sparte, principal allié, vous vous en souvenez, des Athéniens, en Grèce propre. Pendant longtemps, on n'a possédé qu'un nombre très restreint d'inscriptions relatives à cette période. Il y avait, bien sûr, parmi elles, le document essentiel, qu'est le décret même de Crémonides Eipen, contenant l'alliance avec les Lacédémoniens sous le patronage de Ptolémée II Philadelphe, sous l'archonte Peitidémos, dont la datation a fait cependant l'objet d'un vif débat. Il y avait aussi un très intéressant décret pour les Éphèbes, ayant servi sous l'archontat de Ménéclès, quand la guerre enserrait la cité Polemou Katekontos ten Polin. La ville elle-même étant déjà menacée, puisque les recrues avaient participé à la défense du Mouséion, centre stratégique du dispositif militaire. Et le fait que ces braves jeunes gens aient été récompensés sous l'archontat suivant, celui de Nicias, du dème Dotrinae, Nicias III, comme on l'appelle entre gens du métier, fut le successeur immédiat de Ménéclès. Mais ce décret appartenait lui-même encore à la période de la guerre, cette année de Nicias III, car il est bien clair que si la cité était tombée aux mains des Macédoniens sous cet archontat déjà, il n'y aurait pas eu de décret pour rappeler la belle conduite des Éphèbes, ni non plus pour honorer les étrangers, tel l'officier Strombikos, sous ce même archonte Nicias, qui, après s'être battu pour la libération d'Athènes 20 ans plus tôt, continuait à œuvrer au service de la cité, la guerre étant survenue, tout polemou genomenou. Mais ces documents, si précieux fussent-ils, ne disaient rien des péripéties de la guerre elle-même. Il fallut attendre les années 1960 pour mieux comprendre le rôle joué par le navarque de Ptolémée, ce Patroclos, qui laissa une forte empreinte dans la mémoire collective athénienne, puisque une île, disons un îlot, et habitée seulement par quelques ânes et quelques bourriques, Gaïdaronici, conserva longtemps, juste au sud du Sounion, son nom, remis du reste aujourd'hui à l'honneur sous la forme Patroclonici. C'est surtout le décret de Ramnonte pour le stratège Épicarès en 1967 qui a livré d'un seul coup une foule d'informations sur la vie de ce dème frontalier avec sa garnison pendant la première année de la guerre, sous l'archonta précisément de ce Peitidemos. On a vu que cette inscription, souvent commentée et traduite, n'avait pas encore livré tous ses secrets. Là, en particulier, où subsistent quelques lacunes, sans même parler de la partie finale, très mutilée pour les considérants. Je n'y reviens pas ici, sauf pour synthétiser l'état actuel de ma réflexion sur le problème posé par la ligne 12, où il était question d'un sanctuaire, Hieron, que le stratège Épicarès avait aménagé, Kataskiasas, pour y installer son quartier général, son strategion. En effet, le nom de la divinité a disparu, pour ainsi dire complètement, au début de cette ligne 12, et l'éditeur du document avait proposé, propose toujours, d'y retrouver Némésis, principale divinité de Ramnonte, adorée dans le beau temple qui surplombe la forteresse. En séance de séminaire, on a montré que cette restitution fondée sur le lieu d'exposition présumé de ce décret n'allait pas sans poser de redoutables problèmes au point de vue militaire, justement. De fait, au supplément partout adopté jusqu'ici comme s'il était assuré, l'archéologue Yorios Steinauer propose maintenant de substituer une autre lecture très, très audacieuse, très ingénieuse, qui ferait de ce lieu saint le sanctuaire d'Arsinoé, to hierontes Arsinoès. La présence à Ramnonte d'un lieu de culte pour la princesse Lagide divinisée pourrait trouver sa justification dans le rôle éminent, assurément, que la princesse Lagide divinisée à ce moment-là pourrait trouver jouer au témoignage même du grand décret de Crémonides. On s'en souvient. Elle qui a pesé dans la décision même des Lagides d'appuyer Athènes contre Antigone. Si elle devait se confirmer, la lecture restitution du savant grec s'avérerait d'une importance historique considérable puisqu'elle attesterait que le culte de la défunte épouse de Ptolémée II put s'implanter pendant un temps très bref nécessairement dans ce canton excentrique de l'Attique. Alors qu'il n'était connu, ce culte, jusqu'ici, que dans les possessions ptolémaïques de Chypre, de la côte micrasiatique et des Cyclades, jusqu'à l'Eubée méridionale comprise. Pourtant, si séduisante qu'elle soit, cette restitution me semble devoir être repoussée à regret, pour des raisons de langue. Car l'expression « to hierontes arsinoes » n'est pas satisfaisante. D'abord, on eût attendu bien plutôt le mot « témenos » pour un tel culte. On a « témenos » de la reine Phila, par exemple, à Samos, dans un décret trouvé à Kos. « Témenos d'Arsinoé » elle-même, dans une bien intéressante inscription provenant d'une ville de Cilicie, nouvellement fondée, justement, sous le nom d'Arsinoé. Ensuite, et surtout, vous voyez, ento arsinoes temenei, qui s'oppose au hieron d'Aphrodite, ici. Ensuite et surtout, dans un endroit comme Ramnonte, où son culte aurait été, encore une fois, très récent, lié à la conjoncture, il serait surprenant que le nom de la reine n'eût pas été accompagné par son épiclèse. De fait, les plaques d'autel découvert en divers lieux de l'Empire Lagide, porte toutes, sans exception, comme celle-ci de Konos, les mots « Arsinoès Philadelphou ». Dès lors, rejetant aussi bien Némésis qu'Arsinoé comme divinité sous la protection de laquelle Épicarès installa son strategion, je me demande si ce n'est pas le nom d'une déesse certes secondaire, mais de nature éminemment militaire, qu'il conviendrait d'introduire dans la lacune du décret pour Épicarès, à savoir hégémonée, autrement dit Aphrodite hégémonée, dont le sanctuaire était situé, on le sait par d'autres inscriptions, dans ce quartier sud, près d'une poterne, du Frurion de Ramnonte. Ainsi pourrait s'expliquer au mieux que dans la moitié gauche conservée, retrouvée il y a peu, de la plaque de consécration de ce strategion, justement, to strategion, ligne 3, Épicarès est dédié sa construction au héros Archégète et à une seconde divinité, dans la partie droite de la pierre, qui ne serait autre que cette Aphrodite hégémonée, les deux sanctuaires effectivement étant tous voisins dans ce secteur de la forteresse. Et la conséquence ultime de cet échafaudage, direz-vous, épigraphico-topographique, serait que le strategion d'Épicarès, loin d'avoir été une construction provisoire établie hors du Frurion, serait à identifier tout naturellement avec celui dont fait mention, 20 ans plus tard, un autre stratège, en 248-7, aux lignes 11-12, to synedrion prosto strategio, dans ce décret, qui honore le stratège Toukritos, après que tout ce secteur eût été réaménagé par le personnage en question, effectivement récompensé, on le voit là, pour avoir été le promoteur de la construction de la poterne orientale, les Pulailles, avec le poste de garde, Pulorion, bref, un réaménagement complet du secteur, avec la voie d'accès et l'entrée où ce décret a été trouvé pratiquement in situ. Mais revenons à la guerre de Crémonides. J'avais fait voir la semaine dernière l'apport décisif sur le plan chronologique d'un autre document de Ramnonte, le décret inédit pour Aristeides, à peine plus tardif que celui d'Épicarès, puisque tout invite à penser que cet Aristeides de Lamtraille, homme politique éminent, fut le successeur immédiat d'Épicarès dans la fonction de stratège du secteur côtier. Grâce à cette inscription, il paraît définitivement établi que l'archonte Peitidémos, dont la position est si importante pour fixer le début de la guerre, a précédé et non pas suivi les deux archontes Ménéclès et Nicias III, lesquels, non seulement, on l'a dit, forment un duo indissociable, mais sont datables très précisément des années 267 et 266-5, en raison, mais je n'insiste pas là-dessus, c'est technique, de leur insertion assurée dans le cycle des secrétaires athéniens, qui se succèdent année après année selon une loi, selon l'ordre des 12 tribus, c'est la loi qu'entre épigraphistes on appelle loi de Ferguson. Cela signifie que la date de 267 pour Peitidémos, la plus communément adoptée du reste, depuis la solide thèse munichoise de l'historien Heinz Heinen en 1972 déjà, doit l'emporter désormais, rejetant dans les ténèbres extérieures la date base de 265K défendue autrefois et encore tout récemment et contre toute vraisemblance. Sans être exclu, au même degré, la date plus haute, légèrement plus haute de 269-8, doit également, jusqu'à preuve du contraire, être rejetée, quoique proposée en 2009 par un excellent connaisseur, mais avec des arguments qui sont, me semble-t-il, loin d'emporter la conviction. Bref, on paraît tenir enfin le pivot chronologique recherché depuis plus d'un siècle. Cela permet donc d'affirmer, aujourd'hui, que la déclaration de guerre contre les ennemis de la liberté grecque, nouveaux barbares, aussi dangereux que les Perses de Xerxès, pour reprendre la phraséologie, vous vous en souvenez, du décret de Crémonides, que cette guerre a été déclarée en août 268, mais pour ne commencer réellement qu'au printemps 267, sans doute par la prise d'Érétrie en Eubée, tout près de Ramnonte, d'où la présence à ce moment-là déjà de l'armée ennemie dans le pays, tout stratopédou ontos entekora, comme il est dit expressément dans le décret. Puis aussitôt après se place l'irruption justement d'Antigone en Mégaride, signalée dans le nouveau décret. Effectué quand le stratège Aristeides était en poste à Éleusis, place forte qu'il sut protéger contre les Macédoniens, quand bien même ceux-ci n'avaient pas tardé à pénétrer dans le territoire même d'Athènes, aussitôt après. Embeblekotos aidait Antigonou Eisthenatiken. Pour répondre à cette terrible menace, et donc datant de l'été 267 encore, un appel d'urgence d'Athènes aux Lacédémoniens et à leur roi Areus est transmis par ce même Aristeides en tant que délégué au Synodrion, conseil des alliés, tandis que de son côté, le navarque Lagide Patroclos continue à harceler l'armée d'Antigone depuis les côtes du golfe Saronique. Car c'était aux Spartiates, gloire militaire de la vieille Grèce, qu'il incombait désormais d'affronter directement l'infanterie macédonienne, reine des batailles depuis Philippe et Alexandre. Tel est le plan dont nous instruisait déjà une notice de Pausanias au livre 3-6, plan qui connut un début de réalisation en 266, quand le roi Areus s'avança sans doute jusqu'à la région isthmique, l'isthme, Corinthe, mais dut ensuite, faute de vivres en suffisance, en jugé en tout cas par la tradition suivie par le Périégète, faire marche arrière. Mais la raison principale pourrait avoir été différente. En effet, comme le laisse voir le récit à la fois prolixe et très imprécis de Justin, l'abréviateur romain, Antigone réussit alors à mater une insurrection de mercenaires celto-grecs qui étaient stationnés à Mégare, justement, en tout cas d'après le sommaire du livre 26 de l'historien Trogue Pompée. Indication géographique désormais confirmée par le nouveau décret de Ramnonte, qui atteste, on l'a dit, une mainmise d'Antigone sur la Mégaride aux portes d'Athènes, aux portes d'Éleusis, dès le début de la guerre. Le vieux roi Areus n'en reprit pas moins le chemin de Corinthe, une deuxième, une troisième fois, mais il tomba bientôt au combat. Fixé de manière indépendante, la date de sa mort en 265-4, a certainement marqué un tournant dans le déroulement de la guerre, puisqu'à partir de ce moment-là, les Athéniens ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes pour les opérations terrestres, l'action de Patroclos restant toujours confinée au domaine côtier. Alors commence le long siège de la ville, dont l'exceptionnelle durée s'explique en partie du fait que de la temporaire suspension du blocus à l'automne 262, très probablement, en raison d'une invasion épirote du roi des Pires en Macédoine, qui obligea Antigone à regagner son royaume après avoir conclu une paix trompeuse avec les assiégés. Car c'est ici que Saint-Cyr s'insère au mieux une anecdote, qu'on verra dans un instant, instructive de Pollien. Vous l'avez dans votre dossier. Mais le siège dut reprendre de plus belle avant la moisson de 261 et la capitulation s'avéra alors rapidement inévitable pour les Athéniens, affamés, tout espoir de rompre le blocus s'étant désormais évanoui. On constate ainsi que dans l'état actuel de nos connaissances, les dernières années de la guerre sont nettement moins bien documentées que celles du début, pour lesquelles on dispose, en sus des sources littéraires, de quelques inscriptions capitales. Cette différence tient moins à la tradition historiographique, qui finalement médiocrement conservé du début à la fin, qu'à la nature des témoignages épigraphiques. Et l'on peut craindre que cette situation ne change pas radicalement à l'avenir. En effet, la carence de grands décrets honorifiques portant sur les années 264-261 n'est sans doute pas due entièrement au hasard. Les Athéniens, en ville ou dans les forteresses, furent assez peu enclins, pendant la durée du siège, à voter de tels décrets. Faute de moyens, d'abord, et surtout parce qu'ils devaient manquer de ce minimum d'espérance que suppose toute manifestation de gratitude. Et au lendemain de la capitulation de la ville, il fut évidemment impossible d'évoquer la lutte menée contre le roi d'Antigone, sauf à prendre résolument le parti des Macédoniens. À cet égard, le décret voté pour le philosophe Zénon de Kition, on le verra au séminaire, est par ses silences fort instructif, si du moins l'on accepte, c'est mon cas, d'en reconnaître la foncière authenticité. De grands décrets récapitulatifs, à la manière de celui de Callias, vous vous en souvenez, purent certes être votés encore, mais en tout petit nombre. On en aurait un exemple célèbre avec le décret pour Phaidros de Sphettos. Vous avez parti seulement sous les yeux et dans votre dossier, qui était le propre frère de Callias. Décret placé très généralement au début des années 250, de toute façon, pense-t-on, après la capitulation survenue au plus tard en 261. Mais voilà que, dans un ouvrage collectif paru à Athènes tout récemment, sous le titre Attica Epigraphica, l'épigraphiste australien Michael Osborne a fait valoir d'excellentes raisons pour remonter autant que possible la date de cet très imposant décret, montrant d'une part que l'archonte Euboulos, qui est ici, Ep Euboulou Archontos, sous l'éponie duquel Phaidros, tout à la fin de sa carrière, put subvenir aux frais de la coûteuse agonothésie, magistrature, donc assumée par son propre fils Thumocarès, Thumocarou, agonothétou, etc., que cet archonte Euboulos, disais-je, a les meilleures chances, au vu d'un décret d'une association privée, bien conservée, du Pirée, d'être le successeur immédiat de ce Nicias III, dont nous avons déjà un peu parlé, qui lui est solidement ancré en 266-5. Donc un Euboulos qui daterait de 265-4. D'autre part, le décret pour Phaidros a nécessairement dû être voté peu avant une célébration des grandes Panathénées. Ça, c'est le texte de l'association, mais je n'insiste pas. Vous voyez, Epi Nikiou Archontos, et son prédécesseur ne serait pas Aristonumou, mais Euboulou, c'est vraisemblable. Voilà, on revient au décret pour Phaidros, avec la mention des Panathénées. Donc, ce décret a dû être voté avant une célébration des Panathénées, des grandes Panathénées, tous les 4 ans, puisqu'il est spécifié que la proclamation des honneurs aura lieu non seulement, c'est l'habitude, lors des prochaines grandes Dionysies, mais aussi, chose exceptionnelle, aux grandes Panathénées. Donc, Phaidros pourrait théoriquement avoir été honoré dès le début de l'année panathénaïque, si on peut dire, 262, à l'extrême fin de la guerre de Crémonides. Et cela pourrait rendre compte, note Osborne, du caractère assez particulier, je n'ai pas de photo à vous montrer, de cette stèle de marbre un peu noirâtre, gravée à l'économie, avec des lettres toutes petites, vraiment minuscules. Mais pour d'autres raisons, le savant anglo-saxon a pensé devoir reculer devant cette conclusion par trop révolutionnaire à ses yeux, compte tenu d'une tradition scientifique plus que centenaire, et il a préféré défendre la date plus confortable à ses yeux de 258, donc nouvelle année panathénaïque, après la capitulation. Pourtant, à y regarder de près, la procédure et le contenu même du décret me paraissent plaider fortement pour la date haute, avant la capitulation. Phaedros, en effet, s'est strictement confirmé à la procédure en usage pendant les périodes de démocratie et d'indépendance, déposant lui-même, comme l'assure un amendement in fine, ici, un amendement au décret, où il est question de son aïthésis, de sa demande. Donc, Phaedros a fait lui-même la demande en vue des honneurs à lui conférés. D'autre part, il est fait état dans l'inscription d'une ambassade menée par lui, au début de sa carrière alors, auprès de Ptolémée l'Ancien, pros ton presbyteron Ptolémaïon, ça n'est pas dans cette partie du texte, avant 283. Alors, peut-on aisément concevoir qu'au lendemain de la guerre de Crémonides, en 258, selon l'opinion défendue par ce savant, ou même encore plus tard, le vieux Phaedros, appuyé sur l'épaule de Timocharès, son fils, soit venu dire devant la boulée que le moment était venu de l'honorer, lui, qui avait lutté autrefois, et comment, pour la cause de l'indépendance, lui qui avait transmis à ses successeurs une cité libre et autonome, régie selon les règles de la démocratie, ten polin eleiteran kai demokratumenen autonomon paredoke, vous voyez, accumulation de ces des adjectifs, n'aurait-on pas affaire, alors, dans ce cas, à un monument de cynisme politique, si un tel discours avait été prononcé dans une Athènes ayant perdu alors toute autonomie, car tel fut bien son statut, on y reviendra après la guerre. Personnellement, donc, je suis enclin à penser que c'est dans l'hiver 262, juste après une paix provisoire dont il est question chez Paulien, que l'Assemblée athénienne, dans ce moment de confiance retrouvée en la pérennité de ses institutions démocratiques, a dû voter le grand décret pour Phaedros de Sphétos. Il en découlerait alors une indication précieuse sur la date même de la capitulation d'Athènes, objet elle aussi d'une vive discussion. Mais avant d'y venir, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect du siège d'Athènes qui, en l'absence d'informations directes, ça arrive bien souvent, est resté complètement dans l'ombre. Le sort des femmes et des enfants. Force est toutefois d'emprunter, mon excuse, un chemin de traverse. Rappelons en effet que, de l'avis des meilleurs connaisseurs, pardon, ça c'est l'anecdote de Paulien que vous avez dans votre dossier, de toute façon. Voilà. Que de l'avis des meilleurs connaisseurs, de la gravure hellénistique, c'est au milieu du IIIe siècle qu'a été transcrit sur une stèle trouvée à Trézène, Péloponnèse, le fameux décret de Thémistocle relatif à l'évacuation d'Athènes à l'arrivée des Perses en 480 avant Jésus-Christ. Comme on l'avait indiqué l'an dernier, le caractère inauthentique de ce document ne fait depuis longtemps plus aucun doute, mais son intérêt n'en demeure pas moins considérable, puisqu'il a bien fallu que quelque chose se produise pour que les gens de Trézène puissent vouloir faire ainsi graver ce décret attique, prétendument vieux de deux siècles, dont le noyau paraît en réalité avoir été forgé à l'époque de Démosthène. On avait vu aussi que, selon une hypothèse toute récente d'un historien italien, c'est à l'homme politique athénien Stratoclès de Diomeia, entre 307 et 301, époque du Poliorcète, qu'il faudrait attribuer l'initiative de cette opération de propagande en dépit des indices, encore une fois, qui plaident nettement pour une date plus tardive, milieu du IIIe siècle, pour cette gravure. Ne serait-ce donc que pour cela, l'idée de rattacher la chose, ce dossier, à la guerre de Crémonides, me semble, comme à d'autres, infiniment plus séduisante. en raison aussi de l'idéologie passéiste qui se manifeste, encore une fois, dans le décret de Crémonides, comme aussi on l'a vu dans le décret du koinon des Hélènes à Platée pour Glaucon, frère de Crémonides. Dans un article de 1988, l'historien britannique Noel Robertson attirait l'attention sur le fait que Trézène, lieu de trouvailles, encore une fois, du décret de Thémistocle, et lieu de refuge d'une partie de la population athénienne en 480, cela est tout à fait assuré, se trouve au cœur du dispositif, ici vous avez la région de Trézène, donc du dispositif ptolémaïque dans ce secteur de l'Égée, puisque les Lagides avaient installé une base navale à Métana, là, au pied de la presqu'île, en territoire de Trézène, avant que ce petit Gibraltar, comme aimait à le dire le maître Louis Robert, ne devint une cité autonome sous le nom dynastique d'Arsinoé, précisément. On peut alors se demander si les Athéniens n'auraient pas réussi, pendant le siège des années 265-262, ou peut-être seulement 262, à faire passer à Trézène une partie de la population civile, femmes et enfants, ou plutôt enfants et femmes, pour respecter l'ordre des mots en usage en Grèce ancienne, dans cette patrie du mythique Thésée, leur ancêtre, renouvelant ainsi la décision de leur père autrefois et tirant parti au surplus de ce que Trézène, justement, était placé sous le protectorat de leur grand allié Ptolémée Philadelphe, qui pouvait ainsi, par sa flotte, assurer la sécurité de cette population, alors que sa subsistance, dans Athènes investie, serait devenue chaque jour plus problématique. Il me semble qu'on pourrait ainsi expliquer beaucoup mieux la décision prise par les gens de Trézène, eux-mêmes, qui, selon un passage de la vie de Thémistocle de Plutarque, chapitre 10, ces gens de Trézène décrétèrent que les réfugiés athéniens seraient nourris aux frais de l'État, Demosiae, que chacun d'eux recevrait deux oboles, que les enfants auraient la permission de cueillir des fruits partout et qu'on payerait pour eux le salaire de leur maître d'école, Didascalois Telein Mistus. C'est Nicagoras, conclut Plutarque, qui proposa le décret. Mais ce document, bien sûr, ne saurait dater de l'époque de Thémistocle, puisqu'en 480, les femmes et les enfants d'Athènes ne demeurèrent qu'un mois tout au plus à Trézène, la victoire des Grecs à Salamine ayant très rapidement permis leur rapatriement à Athènes. Bien différente dut être la situation à la fin de la guerre de Crémonides, les réfugiés ayant été obligés de rester à Trézène pendant au moins une année, peut-être davantage. Dès lors, il est permis de tenir Nicagoras pour un homme politique pro-athénien actif vers le milieu du IIIe siècle et de considérer comme authentique le décret qu'il eut le mérite de faire voter à ses compatriotes pour venir en aide au peuple d'Athènes. Et réfléchir, c'est lui qui pourrait bien avoir eu l'initiative aussi de faire graver à Trézène le pseudo-décret de Thémistocle, miraculeusement retrouvé il y a un demi-siècle. Mais revenons à Athènes et au douloureux moment de la capitulation, 25 ans après la glorieuse libération de 287. Il n'y a peut-être pas de signe plus éloquent de la pauvreté de nos sources que ce constat. Aucune inscription ne fait mention de cet événement dramatique, d'où aussi l'incertitude qui continue à planer sur sa date exacte. Bien des chroniques, pourtant, devaient en faire état. Il est vrai que même si elles nous étaient parvenues complètes, ce qui n'est pas le cas malheureusement, la célèbre chronique lapidaire, connue sous le nom de chronique de Paros, ne nous aurait été ici d'aucune utilité, car ce document épigraphique, dont par ailleurs, la rigoureuse exactitude a été testée pour la fin du IVe siècle en particulier, est l'œuvre d'un citoyen de l'île de Paros, qui avait décidé de prendre comme point d'aboutissement de sa chronique, et en même temps point de référence pour tous les événements antérieurs, l'archonta de Diognetos à Athènes. Or, la date de cet archonte a pu être placée de manière tout à fait sûre, 264-3, grâce justement aux données fournies par la chronique elle-même. Et cette date ne saurait correspondre à la fin de la guerre de Crémonides. Par chance, malgré tout, un extrait d'une autre chronique hellénistique, plus tardive, nous a été partiellement conservé dans un des papyrus de la Villa des Pisons à Herculanéum. C'est un fragment du philosophe Philodème qui, dans son histoire des représentants de l'école stoïcienne, faisait appel à la chronique d'Apollodore d'Athènes, grand érudit du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Or, dans cette citation, plusieurs choses d'une extrême importance figurent pour le sujet qui nous occupe. D'abord, que la ville d'Athènes, Apollodoros donc, dit que la ville d'Athènes fut prise katerestai, ou mieux, selon une lecture plus récente, celle qui figure ici, katadedestai, c'est-à-dire qu'elle a été en quelque sorte liée, capturée, par Antigone, sous l'archonta, sous l'archonta d'Antipatros, celui qui succède à Arène, celui qui précède immédiatement Arénaïdès. Indication chronologique des plus précieuses, puisque l'on a depuis toujours de très bonnes raisons de placer vers 261. Année de la mort de Zénon de Kition, cette Arénaïdès qui date le décret voté en l'honneur du grand philosophe, ce décret que nous allons examiner tout à l'heure en séminaire. Mais le débat reste néanmoins ouvert entre la date de 263-2 et celle de 262-1 pour Antipatros, donc l'archonte qui marque le moment de la capitulation elle-même. La première, la date haute, est défendue en particulier par l'auteur de cette publication, ici, le papyrologue Tiziano Dorandi, spécialiste reconnu de la biographie des philosophes. Tandis que la seconde a eu pour avocat, depuis le travail fondateur de Heinz Heinen en 1972, divers historiens épigraphistes, dont votre serviteur. Tout en reconnaissant la pertinence des déductions faites par mon collègue et ami italien, je pense plus que jamais que la date de 262-1 pour Antipatros, permet une meilleure reconstitution des faits liés à la capitulation d'Athènes, en relation notamment avec la très intéressante ruse frumentaire rapportée par Pollien au livre 6 de ses Stratagemata. D'autre part, et surtout, il y a unanimité chez les meilleurs connaisseurs de la chronologie delphique pour penser qu'au Pythia de Delphes, en l'an 262, à l'automne 262, sous l'archonte Pleistone, il y a encore, on constate qu'il y a encore un représentant d'Athènes au conseil amphictyonique, alors que les Athéniens cessèrent complètement d'envoyer un hiéromnémon, un représentant, pendant plusieurs décennies après la capitulation d'Athènes. C'est donc une très bonne raison pour mettre cette capitulation au printemps de l'année suivante, printemps 261 seulement, et non pas, comme le voudraient Dorandi et ses partisans assez nombreux, au printemps 262 déjà. Un argument supplémentaire réside dans le fait, dans la datation proposée il y a un instant, pour le grand décret en l'honneur de Phaedros de Sphettos. En effet, si ce document, nécessairement postérieur à l'année 265-4, vient se placer, comme je pense, dans l'hiver 263-2, avant les grandes Panathénées célébrées l'été suivant, cela signifie que les Athéniens, en 262, jouissaient encore de leur liberté et de leur régime démocratique. La deuxième information fournie La deuxième information que vous avez sous les yeux, fournie par la chronique d'Apollodore, ne soulève aucun problème particulier, puisqu'elle rejoint ce que, de son côté, disait Pausanias dans son intéressant excursus du livre 3, l'installation d'une garnison au Mouséion à Athènes même. On donne une ancienne carte ici du XIXe siècle. Ce Mouséion, dont l'occupation par les troupes d'Antigone, dut à n'en pas douter être un événement extrêmement douloureux. Puisque, on s'en souvient peut-être, la prise du Mouséion avait été, en 287, le point de départ de la révolte contre Démétrios Poliorcète. Cet admirable poste d'observation, hein, au sud de l'Acropole, pour contrôler l'activité urbaine, d'un côté, surveiller en même temps tout mouvement depuis le Pirée ou la côte de Phalère, était devenu, pendant la période démocratique, un haut lieu, on peut dire un symbole de la démocratie athénienne, celui de la victoire sur l'occupant macédonien et de la souveraineté retrouvée. Il n'est pas fortuit qu'au témoignage du décret que j'avais montré tout à l'heure pour les Éphèbes, ceux-ci se soient vus confier la défense de cette forteresse. Ni non plus qu'à la même date encore, on l'avait vu également, on est tenu à honorer l'officier étranger Strombikos pour avoir participé 20 ans plus tôt à l'assaut du Mouséion par le peuple soulevé contre Démétrios. On ne saurait donc assez marquer l'impact de la mesure prise, en toute connaissance de cause, bien sûr, par le fils du Poliorcète, par Antigone Gonatas. Ce qui pose problème, en revanche, c'est de savoir ce qu'il advint des autres forteresses attiques. Cette capitulation, dans quelle mesure elle affecta aussi le sort des autres forteresses. Certes, il n'y a guère d'ambiguïté dans le cas de Mounichi, au Pirée, puisque ce fort, à tout le moins, sinon l'ensemble du Pirée, dut être au pouvoir des Macédoniens dès le début des hostilités. Mais qu'en fut-il des Frouria répartis aux frontières du territoire? Jusqu'à quelle date avait-il pu résister à la pression de l'ennemi? Jusqu'à quand y eut-il des stratèges qui étaient les Picares, à Ramnonte et à Aristeides, à Éleusis, parvinrent à assurer durant tout leur mandat la sécurité du Frourion et en remettre les clés à un successeur toujours élu par le peuple. Mais même dans le cas de Ramnonte, qui est, on l'a vu, la mieux connue de toutes ces garnisons de l'Attique, on ignore si la passation des pouvoirs se fit au moment de la capitulation ou déjà plus tôt. Pour les années 265-262, en fait, aucune inscription ne paraît actuellement nous éclairer sur ce point. On possède en revanche un décret qui n'a pas manqué d'attirer l'attention. Et déjà, dans son étude de 1972 sur la guerre de Crémonides, Heinen l'avait allégué parce que, comme vous le constatez, c'est une des rares choses qui soit sûre, il a fait mention de « ep antipatrou archontos », or cet antipatros, c'est l'archonte même de la capitulation. Heinen n'avait pas pu en tirer grand-chose parce qu'il était dans ce document était vraiment dans un état de mutilation qui défiait à peu près toute possibilité d'élucidation. Mais depuis une quinzaine d'années, grâce à un fragment nouveau trouvé dans les fouilles de Ramnonte, qui est venu se raccorder à la partie déjà connue, ce morceau-là, on dispose d'un texte un peu plus complet, qui reste toutefois d'interprétation délicate, malgré tout, à partir des lignes 7 et suivantes. Si le personnage honoré, Cléocarès, fils de Cléodorides, a été élu chef de Dème, Démarcos, restitution probable, étant donné les attributions religieuses qui sont les siennes d'après la fin du décret, il paraît clair que cette élection pour l'année d'Antipatros a été réalisé avant la capitulation d'Athènes sous cet archonte. De fait, le premier des services rendus ce personnage, qui est en rapport avec la récolte, on a une phrase un peu difficile, « tonten carpo, nisita mere » ou « ta megista » peut-être, « mere », cette activité qui recoupe d'une certaine façon les éléments de l'anecdote de Polyen, où il est aussi question de récolte, de problème de récolte, et aussi d'ensemencement. Ce service, disais-je, assimile l'action du personnage à celle des stratèges ou des épimélètes dans les années antérieures. Ce passage, d'ailleurs, encore une fois, devra être probablement restitué un peu différemment. Le texte n'est pas tout à fait en ordre. Il faudra probablement ici voir plutôt un participe épimélomenos et le verbe principal sera apedexato, mais je n'entre pas dans ces considérations ici. Le bienfait signalé ensuite, à partir des lignes 6, lui, il est tout à fait sui generis, tout à fait particulier, lié visiblement à une conjoncture exceptionnelle qui pourrait bien être la capitulation elle-même, un écho de la capitulation. Selon l'éditeur du décret, Cléocarès aurait fait venir quelque chose, ekomisato, dekai, pour les gens de Ramnonte en service au Pirée. Tois ramnousiois, tois en toi peirai, tetagmenois. Tandis que pour Philippe Gauthier, analysant ce document en 1997, on devrait lire ici, après un participe tel que entuko, ayant rencontré, ayant une entrevue, un datif singulier désignant le préposé à la garde du Pirée, toi ente peiraiei tetagmenoi, avec un oméga. En réalité, il me paraît à la fois plus économique et plus conforme aux vestiges conservés de restituer para ou apo tout epimeletu, tout epi to peraio tetagmenou, donc un génitif, un iota qui était en réalité un upsilon. Cléocarès ayant réussi à obtenir de ce préposé, Kineas, qu'il restitue ce qu'il avait pris, on elaben Kineas. Ce dernier, notons-le, pourrait bien être un officier au service de la Macédoine, car si l'anthroponyme Kineas se rencontre quelquefois à Athènes, il est très caractéristique de la Thessalie, qui était un important vivier des armées macédoniennes. Resterait bien sûr à savoir ce qu'était la chose animée ou inanimée de genre masculin, on, un chef, un trésor, qui avait été ainsi capturé ou saisi au grand dam des démotes de Ramnonte. Pour le savoir, la trouvaille d'un nouveau fragment est indispensable. Mais en attendant, il est permis de reconnaître en Cléocarès un homme qui, sans être un collaborateur, entretenait d'assez bonnes relations avec les nouveaux maîtres de l'Attique. On constate en tout cas que ce personnage occupa par la suite une place en vue dans les affaires de la garnison à Ramnonte, comme l'atteste le fait qu'il ait été élu au nombre des 10 citoyens chargés de pourvoir à la consécration des honneurs votés au stratège Archandros Delegis, début des années 240, officier vers lequel nous ramènera la semaine prochaine un grand décret encore inédit. Reste dans le texte d'Apollodore, dans le texte de la chronique relative à la capitulation, un troisième point, et c'est celui qui a donné un peu de fil à retordre aux historiens. On lit désormais ainsi le papyrus, Caitas Arcas, Aneirestai, Kai. Pan enos bouloimati, bouloimassi peut-être plutôt, telleistai. Ce qui signifierait qu'avec la mainmise du roi sur Athènes au printemps, les magistratures étaient supprimées et tout était exécuté sur la décision ou les décisions d'un seul homme. En fait, comme l'ont bien marqué Abicht et d'autres, une suppression pure et simple des magistratures n'est ni vraisemblable ni même possible. Au surplus, dès la fin de l'année 261, sous Arénédès, donc premier archonte après la capitulation, le préambule du décret pour Zénon de Kition, assurément authentique en cette partie au moins, montre assez que les institutions démocratiques, au moins en surface, y compris l'Ecclésia, fonctionnaient toujours. En fait, le verbe « anairestai », vous le voyez, « anairestai » est entièrement restitué, et cette restitution n'est pas la seule envisageable. Le verbe à retrouver, indiquer, je ne vais pas vous en offrir la primeur, car il est difficile à détecter, mais le verbe devait indiquer plutôt une suspension, voire une restriction du pouvoir des magistrats, et certainement pas leur suppression. L'État ne pouvait pas fonctionner sans magistrats. Mais au profit de qui s'était faite dans la cité captive cette mise en veilleuse des magistratures? Une hypothèse extrêmement intéressante avait été faite et proposée par Habicht à cet égard, mais qui s'est révélée improbable et sans doute fausse, comme l'auteur de l'hypothèse l'a reconnu tout le premier dès 2002 avec une honnêteté scientifique digne d'éloge. Ce personnage auquel Habicht pensait voir une espèce de gouverneur général d'Athènes, doté d'un pouvoir discrétionnaire, aurait été Démétrios, fils de Phanestratos, le jeune petit-fils de Démétrios de Phalère, le philosophe de la fin du IVe siècle. Et l'existence de ce Démétrios le jeune est absolument certaine. Mais, précisément, comme l'a montré dès 1998 R. Hudgen, un disciple du professeur Habicht lui-même, on ne se méfie jamais assez de ses élèves, la carrière de ce Démétrios le jeune a commencé trop tard pour que l'on puisse admettre qu'en 261, il ait été désigné comme gouverneur général, en quelque sorte d'Athènes. Alors, qui fut ce gouverneur, à la volonté de qui tout était suspendu dans ce berceau, naguère, de la démocratie? Eh bien, à moins d'une surprise toujours possible dans le chantier de construction et de démolition permanente qu'est l'histoire athénienne du IIIe siècle, il faut sans doute admettre, et Habicht lui-même l'a indiqué dans la deuxième édition française de son ouvrage de synthèse, que ce personnage n'était autre que le roi Antigone lui-même, « King of Athens », ainsi que l'écrit Stephen Tracy dans un article aussi de 2002, en reprenant une expression qui avait été utilisée autrefois, mais appliquée à l'époque antérieure, avant la guerre de Crémonides, et là, tout à fait à tort, on l'avait vu, puisqu'il s'agit d'une époque de complète indépendance. Dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais évoquer très brièvement trois intellectuels, et non plus hommes politiques ou militaires, dont la disparition a marqué un tournant dans l'histoire culturelle de la cité. Le premier à devoir être mentionné est sans doute le moins connu du grand public, car il s'agit d'un érudit, Philocore, héritier d'une longue tradition d'attidographe, c'est-à-dire de spécialiste de l'histoire athénienne, avec une place importante qui était faite dans ses ouvrages aux traditions religieuses de la cité. Si Philocore nous intéresse ici un peu, c'est que ce conservateur, patriote, attaché au culte et les pratiquants, en tant aussi que prêtre, fut également un citoyen actif qui dut payer de sa personne dans la guerre que les nationalistes athéniens menèrent avec tant de persévérance contre l'ingérence macédonienne. On ne s'expliquerait pas autrement qu'il ait été une des rares victimes, disons individuelles, connues de nous, de cette mainmise d'Antigone sur Athènes en 261. Selon une source tardive, mais généralement digne de foi, il fut en effet accusé de pencher pour le royaume de Ptolémée. Diablété, calomnié, accusé, proskeklikenai, proskino, te Ptolémaïou basileiai. et apparemment exécuté pour trahison, alors que, justement, les fauteurs de la guerre, si l'on peut s'exprimer ainsi, Crémonides et son frère Glaucon, réussissaient à s'embarquer pour l'Égypte et à trouver un brillant refuge à la cour du Lagide. Nul doute que cette guerre nous serait infiniment mieux connue si l'ouvrage de Philocor nous était parvenu moins mutilé, en particulier dans la section hellénistique, car ce que l'on en conserve par ailleurs nous révèle chez lui un goût de la précision, une acribeia remarquable sur le plan de la chronologie notamment. Si Philocor n'eut pas de successeur immédiat dans sa patrie, il est en quelque sorte le père, ou si l'on veut l'un des pères, de l'érudition très diversifiée qui devait se déployer dès ce IIIe siècle dans les grandes capitales hellénistiques, à commencer par Alexandrie, Antioche, etc. Et à Athènes même, Apollodore, l'auteur de la chronique que l'on a cité il y a un instant, est son lointain héritier. Beaucoup plus illustres sont les deux philosophes qui disparurent à peu près au même moment que l'historien Philocor, ou que, aussi, l'auteur dramatique Philémon, digne émule du grand Ménandre. Le premier de ces penseurs, Épicure, mourut juste avant le conflit, en 271-0. Le second, juste après, dans l'été 261. La biographie de l'Athénien, Épicure, est l'une des mieux établies que l'on ait pour l'époque, vous avez ce texte dans le dossier, pour l'époque hellénistique, grâce aux soins avec lesquels ses élèves consignèrent les principaux événements de sa vie en les faisant suivre d'indications chronologiques précises, mention des archontes, espace de temps, olympiade, donc une biographie parfaitement claire. Ce philosophe fut pourtant tout le contraire d'un homme public. Il vécut retiré dans son jardin, à l'abri des regards, selon la règle du late biosas, vivre caché, n'assumant aucune magistrature, ne prenant point part que l'on sache aux souscriptions publiques, ne fréquentant sans doute même pas l'assemblée du peuple, très différent donc en cela d'un Socrate. Ses adversaires ne manquèrent pas de lui en faire le reproche, et l'on trouve l'écho de cette critique chez Plutarque, dans sa diatribe contre l'épicurien Colotès de Lampsac. Épicure y apparaît comme l'exact opposé de ces grands bienfaiteurs qui étaient Lycurgue, Philippides, Démocharès, Callias, ils ne sont pas mentionnés, mais ce sont des cas, obtinrent en fin de carrière la récompense méritée de leur dévouement et de leur générosité. Plus grave encore, selon Plutarque, non seulement les écrits d'Épicure n'inciteraient pas à l'héroïsme civique, au sacrifice de sa vie pour l'élimination d'un tyran ou la victoire de la cité sur le champ de bataille, mais la conduite même de ce philosophe n'offrirait pas l'exemple de ce que doit faire tout citoyen, tant soit peu fortuné, ce qu'était probablement Épicure, à savoir, dit Plutarque, prendre la mer pour prendre la mer, Thalassa, partir pour sa patrie, conduire des ambassades, dépenser de l'argent pour la cause publique. Voilà ce qu'est un bienfaiteur. Hein. Et Presbeusen, Anelosen, etc. Ce portrait en creux du bienfaiteur, Euergetes, semble avoir échappé à l'attention des historiens qui, naguère, ont réfléchi sur l'hervergétisme hellénistico-romain. Bref, Épicure a été vu par certains comme un profiteur qui tire avantage des commodités de la vie en société sans payer son écho à la cité, asymbolos, asymbolos. Le mot est chez, il est non participatif, le mot est chez Plutarque. Pourtant, cet homme disposait d'un réseau exceptionnel d'amis, de connaissances dans toute la mer Égée, entretenant avec eux une correspondance dont pas mal d'éléments sont conservés. Son affabilité lui gagnait tous les cœurs et surtout le courage dont il fit preuve face à la maladie et à la mort, suscita l'admiration bien au-delà du cercle du jardin. D'après Diogène Laërce, en outre, Épicure obtint malgré tout de sa patrie des marques tangibles de reconnaissance. À en croire les plus récents traducteurs de la vie des philosophes dans notre langue, une entreprise tout à fait méritoire, publiée en 1999, Épicure aurait même été gratifié à Athènes de 20 statues. Voilà qui fait tout de même un peu beaucoup pour un seul homme. En réalité, dans le texte grec, «été patris timesasa eikosi kalkai» signifie que sa patrie l'honora de portraits de bronze, «eikosi», étant ici non pas le numéral 20, mais bien, évidemment, le datif pluriel de «eikon». «Eikosi» l'honora d'un nombre indéterminé de statues de bronze, sans qu'on sache d'ailleurs si l'honneur fut fait de son vivant ou bien plus probablement après sa mort, quand le philosophe athénien eut accédé à une renommée quasi universelle. Je termine un instant. On possède en revanche le décret attique voté pour Zénon, le fondateur du stoïcisme, au lendemain même de sa mort, document transmis par le même Diogène Laërce, objet aujourd'hui d'une discussion sur son antiquité, on y reviendra au séminaire. Je souligne pour conclure le contraste alors observable entre Épicure l'Athénien et ce penseur exactement contemporain, vivant surtout dans la même ville, soumis aux mêmes aléas politiques qu'était Zénon de Kition, chypriote et peut-être même d'origine phénicienne, resté toujours à Athènes en étranger, n'ayant pas le droit d'endroit même où se fixer son école, enseignant sur l'agora, vers le portique, justement la stoa pessile, à proximité des tables de changeurs, des trapézites, ayant ce contact direct avec le public, ce qui, on le montrera la prochaine fois, pour, permet d'expliquer une comparaison que fait Zénon entre deux numéraires en circulation. Mais je passe là-dessus pour conclure, on y reviendra. Ce personnage comptait ses sources, n'en était pas moins généreux, juste qu'il faut dans les grandes occasions, n'hésitant pas à faire des souscriptions, à participer à des épidocèses, comme on dit, en mettant toujours son nom, Zénon Okitios, au bas de la stèle, comme le rappelle Diogène Laërce. Et puis, last but not least, Zénon ne dédaignait pas la fréquentation des rois, ou du moins répondait à leurs lettres, même si alors, les spécimens qu'on a conservés sont manifestement des faux. Mais il n'y a pas à douter de l'admiration que le roi Antigone avait pour lui, se déclarant même son élève, car il avait pu le fréquenter dans son jeune âge, entre 295 et 287. Il ne parvint toutefois pas à le faire venir à Pella, dans sa capitale, n'obtenant que l'envoi d'un de ses élèves, lui aussi chypriote. Mais Zénon mourut à Athènes vers la fin de... de l'année 261, quelques mois seulement après la capitulation de la ville, Antigone en fut sincèrement affecté. « Quel théâtre je perds avec lui !» Ce serait-il écrié publiquement ? Les traducteurs et commentateurs ont cependant, je crois, interprété ce bon mot à contresens. Ils ont cru, jusqu'au plus récent, que le roi se plaignait d'être privé en quelque sorte d'une audience de spectateurs, d'auditeurs, comme le dit un excellent philologue italien. Non, c'est se méprendre sur la signification même du mot « théatron » en grec, qui est fondamentalement un endroit d'où l'on voit, d'où l'on a une large et bonne vue sur le spectacle de la scène. Ce qu'Antigone, donc, avait perdu avec la mort de Zénon, c'est un lieu d'observation pour contempler de plus haut, pour s'élever au-dessus des contingences de la vie quotidienne et des pressions de l'activité politique. Voilà ce qu'avait été, pour le roi de Macédoine, un sage tel que Zénon de Kition, métèque athénien, un théatron, un observatoire sur le monde.